c'est l'heure de Dicosomatique. Bonjour Aurore Vincenti.
Bonjour Patricia.
Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin.
Ah, bah vous allez me mettre des paupiettes en ouverture et un plat de côte. Hein? Non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet, au lieu des paupiettes. Hein? Et puis, mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite paupiette avec, quoi. Hein?
Ce sera confortable hein, comme repas.
Mais j'ai justement découvert que le plat de côte ou plat de côte dont parle Ventura dans les barbouzes, c'est vraiment un gros morceau de viande. Hein. Je crois qu'il y a au moins 11 côtes avec le muscle et la chair au-dessus. Alors nous, les humains, nous avons 12 paires de côtes, puisque vous avez compris qu'on allait parler des côtes aujourd'hui, dont deux qui sont flottantes, et ces côtes, avec les vertèbres à l'arrière et le sternum à l'avant, forment la cage thoracique. Elles ont une forme extrêmement ergonomique. Je ne sais pas si ergonomique est le bon mot, mais enfin bon, j'ai décidé de l'employer aujourd'hui.
Petite frivolité.
Écoutez, il faut se permettre des choses avec la langue.
Elles sont allongées,
elles sont aplaties et courbes, et cette forme leur donne une grande élasticité.
Et elles en ont besoin pour s'ouvrir, parce que quand on respire, elles s'ouvrent, non?
Exactement. Alors, je ne vais pas vous bassiner avec de l'étymologie. Une fois qu'on a dit que le latin costa, c'était le côté et la côte, on a tout dit. Ce qui fait que quand on parle de la côte bretonne ou de la côte, d'un petit côte du Rhône, c'est vrai qu'il est un peu tôt pour en parler, mais on peut quand même.
On peut en parler, on n'est pas obligé d'en boire, on peut en parler d'abord.
C'est la même origine.
D'accord.
Quand on a commencé à employer le mot en français au XIIe siècle, ça a été simultanément le versant d'une colline sur laquelle on plante des vignes et un terme d'anatomie. Et ce mot a donné pas mal de dérivés en français dont on oublie qu'ils viennent de la côte. Par exemple, le verbe côtoyer, qui signifie proprement aller côte à côte avec quelqu'un. Ou encore accoster, aborder quelqu'un, se placer côte à côte. Je vous passe l'adjectif côtelé dans le velours côtelé et la côtelette, ça c'est bon, vous avez compris. Mais il y a bien le costaud. Le costaud qui est large des côtes, charpenté de la cage thoracique. Ça vous embouche un coin.
Ça m'embouche un coin.
Et bah, moi, pareil.
J'ai le droit de dire à Laurent Delmas tout à l'heure qu'il est costaud.
Oui, on a le droit.
D'ailleurs, on le salue parce qu'il doit être en train de mettre un pied devant l'autre.
Et je pense qu'il aime bien le plat de côte.
Oui,
le
côté à mon avis, oui.
Cette indistinction entre la côte et le côté nous aide à comprendre un grand contresens de la tradition judéo-chrétienne qui est cette histoire d'Ève issue de la côte d'Adam.
Ben oui.
Minerve est bien sortie de la cuisse de Jupiter, alors pourquoi pas Ève d'une côte, mais...
Une fille est sortie de ma côte d'azur. Ça ne m'a pas fait mal sur le coup. Une fille est sortie de ma côte d'azur.
Sauf que Nougaro ne savait pas que ce mythe de la côte d'Adam est au cœur d'un problème de traduction. Alors, en ce qui concerne les textes sacrés, vous savez, on parle souvent des problèmes d'interprétation, et une traduction, c'est déjà une première interprétation. Alors, en latin, il y a en effet cette ambiguïté entre côte et côté, et en hébreu, le mot qui est dans le texte originel biblique ne renvoie pas du tout à la côte d'Adam. D'ailleurs, quelle côte serait-ce hein ? On en a quand même quelques-unes des côtes. Donc en hébreu, le mot tsela, qui figure dans la Genèse, désigne le côté. Et c'est Annick de Souzenel, qui connaît très bien l'hébreu et la Bible, dans un ouvrage intitulé « Le féminin de l'être pour en finir avec la côte d'Adam », qui explique que l'homme, avec un grand H, est à la fois homme et femme, et qu'Adam et Ève représentent symboliquement ces deux fonctions masculines et féminines. Je simplifie et je résume sa brillante pensée, qui est très complexe, mais d'une certaine façon, elle explique que le texte en hébreu suggère que quand on est un homme, il ne faut pas oublier son côté féminin. Et quand on est une femme,
Denis Astagnaud, n'oubliez pas votre côté féminin. Merci, c'est gentil.
Et vous, Patricia, votre côté masculin. Maintenant qu'on a dit ça, on peut même dire que chacun de nous a un bout de soi, que ce soit un côté ou une côte, peu importe, mais ce bout-là est un principe de l'autre sexe.
Donc on oublie le mythe, la femme est issue d'une côte de l'homme.
Exactement.
Descend de l'homme, d'accord.
Et pour moi, justement, la côte est vraiment porteuse d'égalité dans la langue française, parce qu'on s'en sert pour se mettre côte à côte, ou alors à côté de quelqu'un. Et théoriquement, si on suit l'expression à la lettre, ça signifie que nos côtes doivent se toucher. Pour moi, c'est une belle image de l'égalité. Il n'y en a pas un au-dessus ou en dessous de l'autre, devant ou derrière. Non, quand on est côte à côte, on est au même niveau, on regarde dans la même direction. Et il n'y a pas non plus cette opposition ou cette altercation qu'on retrouve dans le face-à-face. Donc vive la côte, quoi.
Côte. Merci Aurore Vincenti.